VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Ouagadougou, 19h à Kigali, bienvenue à notre journal. Au Ghana, les Ghanéens ont voté ce mercredi pour leur prochain président et député dans un scrutin qui est perçu comme un test de la stabilité d'un des pays les plus démocratiques du continent africain sur fond de ralentissement de l'économie et de scandales de corruption. Les précisions de Tatiana Mosso.
7 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont une ex-première dame, Nana Kodandou Agyeman Rawlings. Mais la bataille se joue entre les deux rivaux historiques, le président sortant John Dramani Mahama, 58 ans, qui peut se féliciter d'avoir instauré une discipline fiscale. Mais son mandat a été entaché par un ralentissement économique dû à la chute des cours des matières et à des scandales de corruption au sein de l'administration, particulièrement de la justice. L'opposant Nana Akufo-Addo, 72 ans, qui lui se présente pour la troisième fois à la magistrature suprême. Il estime que ce scrutin est un moment charnière pour le Ghana. La campagne électorale a, elle, été marquée par des tensions et des violences. Un partisan de l'opposition a été tué lundi dans des heurts en marge d'un meeting électoral. Les résultats sont attendus à partir de jeudi soir. Si aucun des deux principaux candidats ne remporte plus de 50% des voix, un second tour aura lieu courant décembre.
Au Mali, suspension des travaux au troisième jour du procès de l'ex-chef de la junte malienne Amadou Ayassanogo à Sikasso. Les avocats de la défense ont exigé la présence des témoins en charge. Le public est divisé. D'un côté, certains pensent qu'il faut donner du temps aux jurés pour bien démarrer le procès, alors que d'autres participants estiment que cela relève plutôt de la mauvaise organisation du jugement. Pour la défense, les reports successifs ne relèvent pas du dilatoire. La comparution des témoins cités par le ministère public est une nécessité, souligne Maître Aruna Touré, un avocat de la défense.
Nous sommes qu'à la troisième et il pourrait y en avoir d'autres et les raisons sont objectives et juridiques. À ce stade, il a été simplement constaté que les témoins n'ont pas comparu alors qu'ils ont été régulièrement cités par le parquet. Et c'est normal que le président de la Cour, en accord avec la Cour, prenne une décision de faire comparaître ces témoins s'il le faut par la force. Ils doivent comparaître, forcément. C'est-à-dire manu militari cette fois. Il dira simplement que des citations ont été faites, les gens n'ont pas voulu déférer aux citations.
Maître Aruna Touré, un avocat de la défense au procès d'Amadou Ayassanogo à Sikasso au Mali. Gambie, l'ancien président gambien Yahya Jammeh qui a accepté sa défaite à l'issue de l'élection présidentielle du 2 décembre, après 22 ans au pouvoir, est accusé de graves violations des droits de l'homme par des ONG locales et étrangères. Faut-il le poursuivre, même s'il a quitté pacifiquement le pouvoir, contrairement à plusieurs chefs d'État africains qui s'y accrochent contre vent et marée? Aliou Ntine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique centrale et de l'Ouest, estime que oui, au nom d'une Gambie nouvelle. Les explications d'Aliou Ntine, joint à Banjul, en Gambie, par Nani Talani.
Ce ne serait que justice pour des victimes qui ont été arrêtées arbitrairement, des victimes qui ont été torturées, des victimes qui ont fait l'objet de disparitions de personnes ou qui ont été tout simplement tuées. Au moins que les gens comprennent pourquoi tout cela est arrivé, parce qu'il y a eu des violations graves et continues des droits de l'homme. Et il y a eu quand même des choses dont il faut absolument faire le point pour ne point recommencer ce qui s'est passé et puis aller avec une Gambie nouvelle où la priorité sera le respect des droits humains et de l'état de droit. Il me semble que pour que cette Gambie soit crédible, il faut effectivement faire l'inventaire des violations des droits humains et en tirer vraiment toutes les conséquences de droit.
Ne pensez-vous pas que les poursuites contre Yahya Jammeh pourraient entamer la stabilité de la Gambie?
Je pense aujourd'hui qu'il est de la responsabilité de l'Union africaine, l'ONU et de la CEDEAO de faire en sorte que la transition qui s'entame soit bien sécurisée, de faire tout pour que la Gambie ne soit pas déstabilisé, ça c'est le travail qu'il faut faire, mais je pense que Yahya Jammeh lui-même, pour que demain les gens soient prêts à pardonner, il faut effectivement qu'ils rendent compte. Voilà, la reddition des comptes, quand même, c'est quelque chose de très important pour la situation de la Gambie, pour ce que les gens ont souffert pendant 22 ans, pour ne plus recommencer et pour dire effectivement que c'est une nouvelle voie qui a été prise pour la Gambie.
Aliou Ntine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique centrale maintenant, RDC, l'Église catholique tente un dialogue politique pour éviter des violences après le 19 décembre, fin officielle du mandat du président Joseph Kabila. La conférence épiscopale a rencontré les signataires de l'accord politique et l'opposition rassemblée autour d'Étienne Tshisekedi. Les précisions d'Éric Manirakiza.
Les évêques ont rencontré Étienne Tshisekedi, président de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il ne reconnaît pas l'accord entre la majorité présidentielle et une frange minoritaire de l'opposition, conclu en octobre dernier, pour reporter la présidentielle à une date inconnue et garder au pouvoir Joseph Kabila au-delà du 20 décembre. L'initiative de cette table ronde a demandé à chaque parti de présenter des listes de 15 personnes chargées de négocier. Et les discussions devraient commencer vers la fin de la semaine. Le rassemblement exige un accord politique inclusif avant le 19 décembre en vue de renoncer aux manifestations contre Kabila. Thomas Pereiro, l'émissaire américain pour la région des Grands Lacs, est à Kinshasa pour pousser vers ce dialogue de la dernière chance pour aboutir à une transition pacifique tout en préservant la limite des mandats dictés par la Constitution.
Au Tchad, 14 militants et opposants du Front de l'opposition nouvelle pour l'alternance et le changement, le FONAC, ont été libérés. Le point avec Nathalie Barge.
Détenus depuis plus de 3 semaines, ils sont accusés de tentatives d'attroupement non autorisées le 17 novembre, jour où le FONAC avait programmé un meeting populaire au stade d'Abéna. Dans ces réquisitions, le quatrième substitut du procureur de la République, Al-Mansour Abdelroudjal, a demandé au président du tribunal d'appliquer la loi. Que la politique ne se mêle pas de la justice, a-t-il instruit. Dans leur plaidoirie, les avocats de la partie civile ont évoqué l'illégalité de la procédure. Ils affirment que leurs clients n'ont pas été arrêtés sur les lieux du meeting, mais dans leur véhicule alors qu'ils rentraient chez eux. Le président du tribunal a ainsi relaxé les 14 prévenus pour infraction non constituée. Pour l'opposition, c'est la vérité qui a triomphé sur l'arbitraire.
Actualité hors d'Afrique maintenant, conflit en Syrie à Alep. Les rebelles acculés par le régime du président syrien Bachar al-Assad ont appelé à un cessez-le-feu immédiat pour évacuer les malades et les blessés. La Russie est critiquée pour empêcher l'accès de l'aide humanitaire aux civils pris au piège des combats. Claire Morin-Gibault.
Une coalition de 6 pays, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ont appelé le gouvernement syrien à accepter le plan onusien qui devrait permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Alep. Critiqués pour leur inaction, ces pays occidentaux condamnent aussi, dans leur déclaration commune, les actions du régime syrien et de ses partisans étrangers, en particulier la Russie, pour leur obstruction à l'aide humanitaire. Ce projet de cessez-le-feu devrait être discuté par les chefs de la diplomatie américaine et russe, John Kerry et Sergueï Lavrov, en fin de journée à Hambourg, en Allemagne. Les différents appels à la trêve ont peu de chances d'être entendus par le régime de Bachar el-Assad, qui est en bonne position pour infliger la défaite la plus cuisante à l'opposition armée en reprenant la totalité d'Alep, la deuxième ville du pays.
Politique aux États-Unis, le président élu Donald Trump a présenté mardi son programme militaire qui entend éviter les interventions dans des conflits extérieurs et se concentrer sur la lutte contre les djihadistes du groupe État islamique. Nous allons cesser de faire la course pour renverser des régimes étrangers dont nous ne connaissons rien et avec lesquels nous n'avons rien à faire, a déclaré Donald Trump lors d'une étape de sa tournée post-électorale intitulée « Thank you, merci » à Fayetteville, près de la base militaire de Fort Bragg en Caroline du Nord. Au lieu de cela, notre attention doit être concentrée sur le combat contre le terrorisme et la destruction du groupe État islamique. Et nous le ferons, a-t-il poursuivi dans un discours similaire à celui de sa campagne électorale dénonçant la guerre en Irak. Durant le meeting à Fayetteville, le milliardaire républicain a également présenté à ses partisans son futur secrétaire à la Défense, l'ex-général James Mad Dog Mattis. Et pour terminer, en Afrique du Sud, le ministre britannique des Finances, Philippe Hammond, s'est engagé ce mercredi à renforcer les liens économiques avec l'Afrique du Sud, où il a entamé aujourd'hui une tournée qui le conduira aussi en Asie pour rallier des soutiens avant la sortie de Londres de l'Union européenne. Au premier jour de sa visite dans le pays, M. Hammond s'est entretenu avec son homologue sud-africain Pravin Gordhan et avec la ministre des Affaires étrangères Maïté Nkwana Mashabane. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.